Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 24 juin, la vaccination patine et face à la menace du variant Delta, Jean Castex hausse le ton.
Ça fait deux ou trois jours où nous vaccinons, en première vaccination, 200 000 personnes par jour. C'est trop peu, on a fait beaucoup mieux. Ayez peur du virus, n'ayez surtout pas peur du vaccin.
Le Premier ministre était ce matin dans les Landes où 70% des cas positifs sont dus au variant Delta. Il menace de revoir les règles du déconfinement dans ce département. Le premier parti de France sera encore celui des abstentionnistes dimanche prochain. Mais dans quelle proportion? D'après un sondage IFOP pour le journal du dimanche, seuls 36% des Français ont l'intention d'aller voter. Alors comment les convaincre? Faut-il envisager le vote obligatoire? Prendre en compte le vote blanc? Le politologue Pascal Perrineau sera l'invité de ce journal. Dans RTL Midi aussi, un TGV Paris-Marseille pris pour cible. Il a essuyé des tirs hier soir, juste avant d'arriver à la gare Saint-Charles. Nous reviendrons sur le France-Portugal d'hier et ce match nul de partout. À l'issue de la phase de groupe, les Bleus vous ont-ils convaincu? Enfin, le coup de cœur de nos correspondants nous emmènera en Alsace avec l'histoire incroyable du casque d'un GI américain de la Seconde Guerre mondiale. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
L'Est n'en finit pas avec les orages.
Effectivement, ils vont se réactiver ces orages cet après-midi entre le Jura et le Nord-Est. Ils seront moins violents que ces derniers jours, mais on attend quand même de bonnes pluies avec de la grêle localement. Du sud-ouest aux Ardennes, c'est un temps nuageux avec quelques gouttes ici ou là. Et puis sur le nord-ouest, un ciel partagé entre passages nuageux et quelques éclaircies. Des nuages plus nombreux sur le Finistère. Les températures, elles sont encore fraîches, hein, globalement comprises entre 18 et 22 degrés, sauf près de la Méditerranée où il fait chaud, de 27 à 30 degrés. Et je rappelle que l'heure est toujours en vigilance orange cru.
La question du jour sur RTL.fr, faut-il rendre le vote obligatoire? Vous êtes très partagé. Il y a 46% de oui, 48% de non. Le débat s'annonce intéressant au 32-10. Bonjour Pascal.
Bonjour Christelle. Autre sujet du jour, le recul du Rassemblement National au premier tour des régionales. Peut-il profiter à Éric Zemmour? On doit faire beaucoup mieux sur la vaccination. Vous avez entendu Jean Castex. Vous nous donnerez votre sentiment tout à l'heure, comme vous nous donnerez votre sentiment sur cette passe d'armes entre Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin. Paraît-il qu'ils ont failli en venir aux mains sous les lambris de la République. Êtes-vous convaincu par l'équipe de France? Voilà nos sujets, à tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Ayez peur du virus, n'ayez pas peur du vaccin. C'est l'injonction de Jean Castex en déplacement ce matin dans les Landes où sévit le variant Delta. Il représente 70% des cas positifs dans ce département. Et dans l'EHPAD de Pontonc-sur-l'Adour, près de Dax, où 23 résidents ont été testés positifs au Covid, le Premier ministre et le ministre de la Santé ont mis en cause les soignants, Philippe de Maria.
Oui, ils ont décrypté ce qui s'est passé dans cet EHPAD. Alors, pas de cas graves, mais 91% des résidents y sont vaccinés depuis longtemps. Alors, quelle a été la porte d'entrée du Covid à variant Delta? Réponse d'Olivier Véran et réaction de Jean Castex.
Il y a eu 6 soignants positifs au variant Delta, dont 5 n'étaient pas vaccinés. Et manifestement, le virus est rentré au sein de l'EHPAD par le biais d'une soignante qui n'était pas vaccinée.
Il est impératif, je le dis en conscience, que nous progressions. Qui peut comprendre que le virus entre dans un EHPAD, c'est-à-dire là où il y a les personnes les plus fragiles, par l'intermédiaire de celles et ceux dont c'est la mission de les soigner, de les protéger, de les accompagner.
Alors vous l'entendez, l'exécutif n'évoque pas encore la vaccination obligatoire du personnel, notamment dans les EHPAD, mais il y pense très fort. Ici dans les Landes, pour faire barrage à ce fameux variant Delta, les autorités se donnent 7 jours, dépister massivement 20 000 doses de vaccins en plus. Et si ça ne s'améliore pas, dans ce département qui voit sa population quintuplée durant l'été, la levée des restrictions à la fin du mois, notamment les jauges, pourrait être différée.
Philippe de Maria en direct de Mont-de-Marsan pour RTL. Dans cet EHPAD des Landes dont on parlait à l'instant, 23 résidents ont été testés positifs au variant Delta alors que 21 d'entre eux étaient complètement vaccinés. Alors c'est l'occasion de refaire le point avec vous, Odile Pouget. L'efficacité du vaccin n'est pas remise en cause, malgré les apparences.
Absolument pas. On sait aujourd'hui, grâce justement à des études réalisées en vie réelle au Royaume-Uni, où le variant Delta est largement majoritaire, que la vaccination réduit massivement le risque de développer une forme grave de la maladie, réduction de 70% après la première injection et de 90% après la seconde. La preuve, les hospitalisations n'augmentent pas en Grande-Bretagne, malgré un rebond de l'épidémie. l'épidémie avec 10 000 cas par jour. Par ailleurs, on sait que le vaccin n'empêche pas une personne de contracter la maladie, mais qu'il limite là aussi considérablement ce risque, 80% en moins. Quant au risque de transmission, il est divisé par deux, et cela, quel que soit le vaccin.
Alors, on avait évoqué il y a plusieurs mois l'éventualité d'une troisième dose de vaccin. Où en est-on ?
On n'est pas très avancé. De toute façon, ça ne sera pas avant l'automne. L'avis émis par le Conseil d'orientation de stratégie vaccinale fait état d'un rappel entre 9 et 12 mois après la vaccination. D'abord pour les plus vulnérables, les personnes âgées en EHPAD notamment, qui, on le rappelle, ont été vaccinées en début d'année. Puis pour la population générale, mais ça ne sera pas avant 2022. Oui. Tout cela doit être confirmé par les données scientifiques sur la durée de l'immunité. On attend donc l'avis de l'Agence européenne du médicament, puis dans la foulée, celui de la Haute Autorité de Santé.
Et donc, oui, ce n'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul encore. Merci Odile. Le variant Delta, beaucoup plus contagieux, devrait représenter 90% des nouveaux cas de Covid dans l'Union européenne d'ici fin août. Sachez aussi qu'au Brésil, la pandémie galope. Plus de 115 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. Ce pays est frappé de plein fouet par la troisième vague. Ils se sont chauffés, comme on dit, juste avant le Conseil des ministres hier. Éric Dupond-Moretti a accusé Gérald Darmanin de trahison pour avoir félicité Xavier Bertrand, arrivé largement en tête au premier tour dans les Hauts-de-France. Ce dernier lui a rétorqué qu'il n'avait qu'à commencer par gagner une élection. Ambiance, c'est un clash important entre deux poids lourds du gouvernement. La pression est-elle retombée, Vincent Derosier ?
Alors, à l'heure où je vous parle, le différend entre les deux hommes n'est pas réglé du tout. D'après plusieurs proches, Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin ne se sont pas parlé depuis hier. D'ailleurs, la prise de bec, disons-le, très sonore, a troublé plusieurs membres du gouvernement. Ça pose la question du collectif, se désole un conseiller. Et pourtant, au sommet de l'État, ce matin, on préfère dédramatiser. Non, Emmanuel Macron n'est pas intervenu, il ne le fera pas. Ce sont deux caractères forts, ils se sont dit les choses, relativise un proche du président. À Matignon, no comment également, le Premier ministre est très préoccupé par le variant Delta, vous l'avez entendu, et il a mieux à faire que de recadrer ses ministres, fait savoir un conseiller qui explique qu'entre les réouvertures, la vaccination, les réformes à mener, le couple exécutif a beaucoup mieux à faire que de recadrer ses troupes. Enfin, un proche du président rappelle que ce genre de tension existe depuis toujours, quand on choisit d'avoir de fortes personnalités dans un gouvernement. Une façon aussi de faire oublier que l'affaire a été révélée dans la foulée du Conseil des ministres, les membres du gouvernement n'ont plus peur de se lâcher à l'extérieur, contrairement aux consignes édictées par Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat.
Vincent Derosier, oui, le collectif, c'est une valeur cardinale en politique et pas seulement dans le football. Dans un instant, comment convaincre les Français d'aller voter ?
RTL Midi. RTL Midi. Avec Christelle Rebière.
Y aura-t-il moins d'abstentionnistes pour le second tour des départementales et des régionales dimanche ? Pas sûr. D'après un sondage IFOP pour le journal du dimanche, seuls 36% des Français ont l'intention d'aller voter, soit 3 points de plus qu'au premier tour. Cette semaine sur RTL, nous essayons de comprendre pourquoi les jeunes en particulier se détournent de la politique. 85% des 18-34 ans ont boudé le scrutin. Valentin Boisset, vous êtes parti à leur rencontre ce matin à Dijon.
Oui, et il y a des tractages ce matin sur les marchés de Dijon. Les 18-24 ans passent devant. Ils ont donc bien compris qu'il y avait un deuxième tour dimanche, mais rien n'y fait.
Pas d'élection pour nous, non.
Anaïs et Mathilde n'ont pas voté au premier tour, mais devant les injonctions qu'elles ont pu entendre dans les médias, elles s'y sont intéressées ces derniers jours. Mais ça n'a pas fonctionné. Elles n'iront pas non plus voter au deuxième.
J'ai essayé, on a reçu des prospectus sur ce qui est proposé comme nouvelle réforme. Il y a des choses que je ne comprends pas. Pourtant, je suis en âge de comprendre. Je pense que c'est trop flou.
On n'a pas envie de voter pour quelque chose cautionne qu'à moitié, en fait.
Cautionné qu'à moitié, car le deuxième tour aussi, pour certains, et ils l'ont bien compris, c'est celui des compromis, des alliances. Et donc, pour Nicolas et Mathéo, d'un éloignement supplémentaire par rapport à leurs préoccupations.
Ils vont essayer d'adapter leur discours à certaines populations, etc., sans forcément tenir leurs promesses plus tard.
Je vois pas vraiment l'utilité de voter pour des gens qui ne représentent pas forcément.
Mathéo a bien entendu les injonctions des politiques à aller voter, mais avec ces mots. Il explique qu'une injonction ne suffit pas, ce qu'il veut aussi, c'est une explication de l'enjeu de cette élection.
Le reportage Valentin Boisset. Alors, dans ces conditions, faudrait-il rendre le vote obligatoire ? C'est la question du jour sur RTL.fr et sur laquelle vous allez revenir tout à l'heure avec les auditeurs, Pascal Praud.
Mais Christelle, c'est un choix de ne pas voter. C'est une liberté de ne pas voter. C'est une volonté, un désir, une attitude qui peut s'entendre. Je ne suis pas un fan d'une société qui impose le masque obligatoire, le vaccin obligatoire, le vote obligatoire. Halte-là. Je crois qu'en Europe, il y a le Luxembourg, la Belgique, Belgique et la Grèce qui imposent. Alors si les gens ne votent pas, peut-être ont-ils de bonnes raisons, le politique a perdu son prestige et son pouvoir. À quoi bon voter puisque rien ne change ? Eh bien ça s'entend.
Alors, avec nous en studio, Pascal Perrineau, politologue et professeur des universités à Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
On en parlait tout à l'heure avec Pascal. Dans une enquête, certains pays européens appliquent le vote obligatoire, la Belgique, le Luxembourg ou encore la Grèce. Expliquez-nous comment ça se passe concrètement.
Alors, le vote obligatoire n'a de sens que s'il y a une sanction. Cette sanction, elle peut être de différents types. Il y a des sanctions financières, parfois des sanctions financières assez élevées, comme au Luxembourg, des sanctions financières plus modérées en Belgique. Mais encore, faut-il, le cas belge, qu'il y ait des poursuites.
Oui.
Et très souvent...
En fait, il n'y en a pas.
Mais bien sûr, il n'y en a pas parce qu'il y a trop de citoyens belges qui s'abstiennent et on ne veut pas encombrer les tribunaux avec ce type d'affaires. En Grèce, ils utilisent un procédé différent. Lorsque vous ne votez pas en Grèce, vous aurez une difficulté ensuite, par exemple, à avoir un passeport, une pièce d'identité. Donc les gens réfléchissent à deux fois.
Mais oui, mais alors, ce qui est étonnant, c'est que selon les derniers chiffres, l'abstention remonte en Grèce.
Bien sûr, parce que si vous la crise de la démocratie représentative que traduit cette poussée impressionnante de l'abstention, ça touche même les systèmes dans lesquels il y a une obligation, surtout quand la sanction n'est pas très importante. Et puis même lorsqu'il y a une sanction, il y a une volonté presque de faire un pied de nez en n'allant pas voter au système politique.
Est-ce qu'au fond, le vote obligatoire, c'est pas antidémocratique ?
Alors, je n'irai pas jusque-là. Le vote obligatoire n'est pas antidémocratique, mais on se demande, lorsqu'il y a un tel malaise dans la démocratie politique et électorale, s'il faut répondre une fois de plus par la contrainte. Infantiliser une fois de plus les citoyens. Je ne crois pas que c'est à la hauteur de l'enjeu. Et il n'y a rien de pire si on imposait, par exemple, un vote obligatoire, qu'une obligation sans véritable sanction. Vous voyez, c'est comme ça, peu à peu, que la loi, la norme est tournée en dérision.
Et est-ce qu'au fond, ça peut changer la nature du vote, ce vote obligatoire ?
Ça pourrait non pas la changer profondément, parce qu'il ne faut pas croire que les abstentionnistes dans leur orientation politique sont très différents de ceux qui y vont. Mais enfin, quand on regarde ce qui s'est passé, par exemple, dimanche dernier, c'est vrai qu'il y a eu un surabstentionniste chez les électeurs qui se sentent proches, des partis qui sont plutôt aux extrêmes, à la fois à la droite de la droite et à la gauche de la gauche.
Mais vous considérez-vous que l'abstention, ça fausse le résultat des dernières élections ?
Non, ça ne fausse pas. Ça ne fausse pas du tout le résultat des dernières élections. Vous avez des tas de démocraties très vivantes.
Mais on peut
vivantes.
Dire que les élus sont mal élus,
oui,
s'il y a peu de gens.
C'est ça.
Qui...
Ça peut poser un problème de légitimité, surtout dans un pays qui avait l'habitude d'être participatif comme la France. Mais regardez, il faut toujours regarder un peu au-delà de ses frontières. Vous avez des démocraties qui vivent très bien. La démocratie suisse, la démocratie américaine, au plan local, avec parfois des taux d'abstention littéralement vertigineux. Hein. Les Suisses, ils sont extrêmement consultés pour des tas de choses dans des référendums, ce qu'on appelle, nos amis suisses appellent les votations.
Hein.
Eh bien, par exemple, il faut savoir que très souvent, vous avez 20% de taux de participation. Hein.
Est-ce qu'il faudrait prendre en compte plus massivement le vote blanc ? Est-ce que ce n'est pas au fond ça la solution ? Plutôt que d'aller vers le vote obligatoire.
Vous savez, le vote blanc, il est déjà comptabilisé maintenant à part. Hein, on ne le mélange plus, ce qui était tout de même assez insultant pour les gens qui votaient blanc, parce que dans le vote blanc, il y a une démarche volontaire. On les mélangeait avec les votes nuls. Bon, ça y est, maintenant, on quantifie et on les compte à part les votes blancs par rapport aux votes nuls. C'est un progrès. Mais certains, en particulier partisans du vote blanc, voudraient que le vote blanc devienne un suffrage exprimé, comme le fait d'aller voter pour Marine Le Pen, pour Emmanuel Macron, etc. Et là, ça poserait de gros problèmes juridiques, parce qu'il faudrait changer la Constitution. Parce que on dit que le président de la République ou la présidente est élu à la majorité des suffrages exprimés.
Oui,
et si on considérait, vous voyez, que le vote blanc est un suffrage exprimé, ça pourrait poser de gros problèmes, parce que vous pourriez avoir un des candidats qui n'a pas la majorité des suffrages exprimés.
Donc rien ne va changer. S'il faudrait une réforme constitutionnelle d'ici aux prochaines élections présidentielles, c'est non.
Voilà. Mais il peut y avoir, si vous voulez, des petits toilettages. Par exemple, on peut augmenter les procurations. Ça serait une bonne chose. On peut, par exemple, voter sur deux jours. Il y a des choses à faire, comme toujours.
Merci beaucoup et vous reviendrez nous en parler avec plaisir. Merci Pascal Perrineau, politologue et professeur des universités à Sciences Po. Et après les ratés de la distribution des professions de foi, la Poste va reprendre dans l'urgence 5 millions de plis qui avaient été attribués à la société privée Adrexo. Il n'y a plus que 3 jours pour les mettre dans les boîtes aux lettres, Gauthier Delombugard.
Oui, il va falloir aller très vite car avant même d'arriver dans les mains des facteurs, les professions de foi empruntent tout un parcours. Il y a d'abord l'impression par des entreprises privées, puis la mise sous pli sous le contrôle des préfectures. Ensuite, les documents de propagande sont acheminés par camion vers les centres de distribution. Les facteurs pourront donc commencer à distribuer ces plis supplémentaires à partir de demain seulement. Il ne restera plus que 2 jours avant le vote. La Poste travaille donc dans l'urgence. Les réunions s'enchaînent depuis ce matin avec Adrexo, la société défaillante. Comment organiser la logistique? Comment récupérer tous ces plis? Dans quelle zone les distribuer exactement? Tout cela est sur la table. Et puis, il faut toute une organisation en interne, réorganisation des tournées des facteurs, ajustement des plannings, mobilisation de personnel en plus. Cela ne posera pas de problème selon la direction. Le groupe a déjà assuré la double distribution du premier tour, 48 millions de plis au total pour les départementales et les régionales.
Gauthier Delombugard, dans un instant des tirs contre un TGV près de Marseille.
RTL. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Un TGV pris pour cible, heureusement c'est rarissime. Le Paris-Marseille qui arrivait à 21h à Saint-Charles hier a essuyé des tirs peu avant son entrée en gare. La SNCF a porté plainte. Une enquête a déjà été ouverte, Guillaume Chiez.
Oui, car il faut d'abord déterminer l'origine de ces tirs. Les premières constatations menées dès hier soir ne laissent guère de doute quant au fait qu'il s'agirait bien d'armes à feu. Mais aucune ogive n'a été retrouvée pour le moment, ni sur les vitres, ni sur la partie métallique du train qui a également été perforée. Un passager témoin de la scène a immédiatement signalé l'incident. Il a indiqué qu'un groupe de jeunes était présent le long de la voie au moment des impacts. Les policiers ont donc inspecté la sortie du tunnel Saint-Louis au nord de Marseille, mais à leur arrivée sur place, les forces de l'ordre n'ont trouvé personne. Le train, lui, a poursuivi son chemin hier soir jusqu'à la gare Saint-Charles. C'est la procédure, d'autant que, rappelons-le, aucun passager n'a été blessé lors de ces tirs.
À Guillaume Chiez, 30 ans de prison requis par la cour d'assises spéciale de Paris contre un Égyptien de 33 ans. Il comparait pour avoir attaqué à la machette des militaires au carrousel du Louvre en 2017. L'inlassable combat d'Omar Radad pour prouver son innocence. L'ancien jardinier de Guylaine Marshall, condamné pour le meurtre de cette dernière il y a 30 ans, a déposé ce matin une requête en révision en s'appuyant sur un nouveau rapport. 4 empreintes génétiques correspondant à 4 hommes non identifiés sur l'inscription « Omar m'a tué ». Pour la nièce de la victime, Sabine Dugrand-Rue, c'est un moment douloureux.
Je peux le comprendre, l'injusticiable, c'est son droit le plus strict. Je pense que d'une certaine façon, il croit à sa vérité. La question, c'est que effectivement, la requête d'Omar Radad ravit cette émotion. Et pour toute notre famille, c'est toujours douloureux de se souvenir de cette perte. En plus, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Je me souviens d'avoir été annoncée à ma grand-mère la mort de sa fille. Et pour moi, c'est toujours une émotion qui est très présente. Mais je n'ai pas de doute, et la famille n'a pas de doute, sur la culpabilité d'Omar Radad. Je pense qu'il n'a pas voulu les événements qui se sont produits. Il n'est jamais venu la voir à la chamade avec l'intention de la tuer. Voilà, je pense qu'ils ont eu une altercation qui a dégénéré. J'ai rien d'autre à dire.
Témoignage recueilli par Thomas Proutot. Près de 15 600 000 téléspectateurs ont suivi France-Portugal hier soir sur TF1. L'engouement se confirme pour les Bleus qui ont signé un match nul de partout à Budapest contre le Portugal avec 2 buts de Benzema. Ça leur a permis de finir premier de leur groupe. Mais il y a aussi des faiblesses et des blessures, Nicolas Georgerou.
Oui, des problématiques à gérer. Les prochains jours vont être déterminants. L'aspect athlétique, physique, notamment le match d'hier soir va laisser des traces. Les Bleus ont puisé un peu dans les réserves. La récupération sera essentielle. Après Ousmane Dembélé forfait, Lucas Digne, touché à la cuisse, passe des examens. L'encadrement craint la fin du tournoi pour lui. Alors que le titulaire du poste, Lucas Hernandez, a mal au genou. Lui aussi, l'équipe de France va devoir repenser sa défense. C'est un écueil supplémentaire. La marge n'est pas énorme sur la concurrence. Mais sous Deschamps aussi, c'est vrai, les Bleus n'ont jamais signé de premier tour étincelant, parfait sur toute la ligne. Ça ne les a pas empêchés d'aller loin parfois dans la compétition. Fin du premier acte pour le sélectionneur.
Nouvelle compétition, mais là c'est match couperé, donc on a un jour de plus. Les Suisses en ont beaucoup plus puisqu'ils ont 8 jours. Mais bon, c'est mieux qu'on ait 5 jours plutôt que 4, donc on va bien récupérer et puis après basculer dans la préparation de ce match à Bucarest lundi.
Alors la Suisse, justement Nicolas, attention à l'excès de confiance.
Oui, ça va être le discours du staff, les mises en garde, le sérieux à appliquer. C'est un adversaire abordable, c'est certain. Pensons à Angleterre, Allemagne, à Belgique, Portugal, très relevé dès les huitièmes de finale. Les matchs sont souvent accrochés face à la Suisse, mais l'équipe de France en compétition, Coupe du Monde, Euro, ne s'est jamais inclinée contre nos voisins.
Merci Nicolas, ce sera donc à Bucarest. Six supporters français se sont trompés de destination hier, ils ont confondu Budapest et Bucarest, dommage. Mais cette fois, ils seront au bon endroit, au bon moment.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons aujourd'hui à Valbourg, près d'Haguenau, au musée mémorial des combats de libération en Alsace du Nord. On va vous raconter l'incroyable histoire du casque d'un GI américain qui vient d'être rendu à sa famille 76 ans après, Yannick Collant.
Oui, tout ça grâce à la passion de Cédric Lemaître, le président de ce musée, qui avait récupéré ce casque qui traînait dans une grange alsacienne.
Pendant une nuit d'insomnie, c'est vrai que je ne trouvais pas le sommeil. Je me suis dit, bon, il est temps de s'en occuper. Et au fil de ce nettoyage, je suis tombé sur ces quelques chiffres.
Et c'est ce qui m'a touché dans cette histoire, c'est que ce fragment de matricule peut correspondre à des milliers de soldats. Il faut une énergie folle pour retrouver le bon GI.
Donc il y a un travail de pointage, nom par nom, et une corrélation à faire avec les régiments qui sont passés en Alsace du Nord sur une zone de combat, ici en l'occurrence Lichtenberg. Voici le roster de la 42e division d'infanterie Rainbow. Le fameux 232e régiment d'infanterie qui est ici cité, là on sait qu'on a le bon, là on sait qu'on a la bonne personne.
Le soldat dont le matricule correspond s'appelle Ellis Pope Robertson, mort au combat en Allemagne le 19 mars 1945. Cédric Lemaître a retrouvé sa famille aux États-Unis.
Je leur ai envoyé les photos et là il y a eu un choc, il y a eu une émotion, aussi bien pour eux que pour nous. Là on va répondre 76 ans après à quelque chose de fort.
Et le casque arrivera dans les tout prochains jours dans les mains d'Alec Robertson, l'arrière-petit-fils du soldat américain.
Une belle histoire que vient de nous raconter Yannick Collant, merci. Enfin, une libertine, membre du jury à Cannes, Mylène Farmer, icône de la pop culture, fera partie des 9 jurés. Certains de ses clips sont de véritables courts-métrages comme celui-ci. Que mon cœur lâche, réalisé à l'époque par Luc Besson. Elle a travaillé aussi avec Abel Ferrara. A noter aussi l'actrice Mélanie Laurent, l'acteur Tahar Rahim, jury présidé cette année par le réalisateur américain Spike Lee. Première montée des marches le 6 juillet. Pascal Pro a déjà monté les marches pour arriver jusque-là.
Oui, mais pas celle de Cannes.
Non, pas de tapis rouge.
J'écoutais
non plus.
Pascal Perrineau et comment faire que les gens votent plus. Et il a dit une chose vraiment intéressante à la fin. Il a dit pourquoi pas le vote sur 2 jours. Par exemple, ça peut être peut-être un jour sur semaine et un jour le dimanche. Peut-être, avec 3-4 jours d'écart. Donc ça peut être une piste.
Bon, mieux organiser les procurations, etc.
Et les procurations, parce que c'est vrai, notamment à Paris, qu'il y a beaucoup de gens qui partent le week-end.
Donc on parlera...
Entre autres de ça, du foot également, des abstentionnistes, de Darmanin et Dupond-Moretti qui ont failli en venir aux mains. Ça rime.
Merci. La météo, la Peggy.
Je suis là.
C'est comme la calasse.
C'est la Christelle qui vous parle. La Quelle Christelle. Fraîcheur.
Ah bah oui, écoutez, on est facilement, Christelle, 3 à 4 degrés sous les normales. C'est vrai, c'est frais. 18 à Brest, 20 à Lille et Metz, 21 à Paris et Lyon, 22 à Nantes, 23 à Bordeaux. C'est plus chaud près de la Méditerranée, 27 à Nice et 28 à Montpellier. Côté ciel, je vais commencer par les bonnes nouvelles. Très beau, évidemment, près de la Méditerranée et la Corse. Et sur un large quart nord-ouest, entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Gironde, un ciel variable entre nuages éclaircis. Et on n'a qu'encore une zone d'orage, des orages qui vont se réactiver cet après-midi entre le Jura et l'Alsace-Lorraine. Attention au fort cumul de pluie avec de la grêle. Et partout ailleurs, entre le sud-ouest, en remontant vers les Ardennes, un ciel bien nuageux et quelques gouttes ci et là.
Et demain, enfin une amélioration.
Enfin une amélioration. On aura du beau temps du sud-ouest au nord-est, très beau près de la Méditerranée, encore quelques gouttes entre l'Alsace et le Jura. Et sur le nord-ouest, ce sera plus nuageux avec quelques gouttes près de la Manche.
Merci Peggy. À suivre le rappel des titres, il va être 13h sur RTL.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Faut-il rendre le vote obligatoire? C'est la question du jour. Nous sommes avec Jeanne, qui est adjointe au maire en Côte d'Or. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Oui ou non?
Ah non, certainement pas.
eh bien vous allez nous expliquer pourquoi après le rappel des titres de Christelle.
Ayez peur du virus, pas du vaccin. Jean Castex en déplacement dans les Landes où sévit le variant indien insiste. Nous vaccinons 200 000 personnes par jour en primo-injection. On doit faire beaucoup mieux. Et le Premier ministre appelle solennellement les soignants à se faire vacciner. Le TGV Paris-Marseille pris pour cible, il a fait l'objet de tirs hier soir vers 21h, juste avant son arrivée à la gare Saint-Charles. Heureusement, il n'y a pas de blessés. Une enquête est ouverte. La SNCF va porter plainte. Les dirigeants de 16 pays de l'Union européenne veulent faire respecter les droits des personnes LGBT après l'adoption d'une loi controversée par le Parlement hongrois. Le Conseil européen qui s'ouvre tout à l'heure s'annonce tendu, d'autant qu'il y aura d'autres dossiers chauds, dont celui des migrants et de la Turquie. 36% des Français ont l'intention d'aller voter dimanche prochain. Résultat d'un sondage IFOP, il n'était que 33% dimanche dernier. C'était déjà un record. Quant au raté de la distribution des professions de foi, la Poste reprend à son compte 5 millions de plis confiés à l'origine à la société Adrexo.